Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes. Un arbitre assistant qui tient a priori des propos racistes. Deux équipes, le PSG et les Turcs de Başakşehir d'Istanbul, qui décident de quitter le terrain. Le match a repris ce soir. On sera d'ailleurs en direct sur place dans quelques secondes. C'est du jamais vu, c'est inédit. Alors le racisme dans le foot est-il systémique, comme l'affirment certains? Les instances du football professionnel ont-elles bien pris la mesure de ce qui est en train de se passer? On en parle donc ce soir avec Alexandre Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité scientifique sport et citoyenneté, chercheur en sociologie à Paris 1 et spécialisé dans la perception de la diversité dans le football. On en parle également avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et auteur de L'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde aux éditions Armand Collin. Et on en parle également avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Chef du service des sports évidemment d'Europe 1. D'abord, un petit tour sur place au Parc des Princes, car le match a repris depuis maintenant une trentaine de minutes. Vous êtes sur place, vous suivez les événements, Julien Fromin. Alors, au-delà du fait que ça s'annonce plutôt bien pour le PSG qui mène 3-0, quelle ambiance règne ce soir sur le terrain?
Bah écoutez, on fait comme si, entre guillemets, de rien n'était. La Paris qui vient d'inscrire le troisième but par l'intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty. Alors, il faut rappeler que crise pandémique oblige, eh bien, le match se tient à huis clos. Il y a tout de même des banderoles qui ont été installées par les ultras du Paris Saint-Germain, les supporters du PSG, avec ces messages: soutien à Monsieur Weibo, fier des joueurs, unis contre le racisme. Des joueurs qui ont donc arboré un maillot avec ce même message: non au racisme. Ils se sont mis à genoux, le poing levé. Ça rappelle bien sûr les images de Black Lives Matter qu'on voit notamment aussi sur les terrains de football anglais. Donc c'est une ambiance assez particulière, mais on fait en sorte, en tout cas, les 22 acteurs font en sorte que le football reprenne ses droits après ce qui a été, c'est vrai, quelque chose d'inédit dans l'histoire du football, parce que habituellement...
Et qui restera quelque chose,
oui,
d'inédit.
Parce qu'habituellement, ce sont plutôt malheureusement les supporters qui s'illustrent de cette manière-là. Et là, c'est normalement un des garants du jeu, référents, l'arbitre, eh bien, qui s'est illustré de la plus mauvaise des façons.
Julien Fromin, vous restez évidemment branché avec nous et on va revenir à intervalles réguliers vers vous en direct du Parc des Princes. Première question, Pascal Boniface, y a-t-il ou non, comme on l'entend depuis ce matin dans les commentaires, un racisme systémique dans le football?
Non, il n'y a pas un racisme systémique, il y a du racisme, il y a des supporters qui sont racistes, il y a des joueurs qui peuvent insulter d'autres joueurs pour les déstabiliser, il y a des arbitres qui sont aussi racistes, mais on peut dire que le système football est raciste. Je pense au contraire que le football est une arme pour combattre le racisme. Mais le fait que ce soit une arme pour combattre le racisme n'empêche pas certains débordements, de même qu'il y a des enseignants qui sont racistes, mais que l'éducation nationale n'est pas raciste. Une fois encore, il faut distinguer l'activité et le comportement de certaines personnes et le jeu, l'activité en tant que telle.
Alors Jean-François Pérez, même question, d'abord peut-être sur le constat, l'international anglais Rio Ferdinand disait hier soir: nous sommes à un point de basculement inquiétant, il ne se passe pas une semaine sans un incident impliquant la question raciale. C'est un état de fait, ça?
Je pense que c'est un effet de loupe. C'est un problème qui est de plus en plus traité par les médias.
Et c'est tant mieux.
C'est une cause qu'il faut défendre. Maintenant, je suis très triste, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter pendant les minutes qui viennent, mais je pense que les termes du débat de ce soir sont posés sur un malentendu, au mieux ou au pire de la malhonnêteté intellectuelle, parce que tout part d'un mot qui est négro, qui aurait été prononcé par le quatrième arbitre roumain et qui n'a pas été prononcé, parce que négro, c'est un mot qui n'existe pas dans le roumain. Je peux en parler puisque j'ai habité quelques années là-bas et que je parle cette langue. Le mot, c'est négro. Négro, ça veut dire noir, c'est la couleur de peau.
Alors, et certes, c'est pas péjoratif?
Non.
J'ai entendu dire que c'était plutôt péjoratif.
C'est stupide, non.
Oui.
C'est
mais
stupide.
Vous, ça ne vous choque pas qu'on puisse dire à quelqu'un, toi le noir?
Ah, pour un arbitre de l'UEFA,
pour un arbitre de l'UEFA
dans un match international, c'est un comportement qui n'est pas acceptable et qui va être condamné, bien sûr.
Donc c'est ça la question quand même.
Oui, mais il n'y a pas de racisme. Je ne pense pas, et pour avoir parlé avec les arbitres hier soir tard, il n'y avait pas d'intention raciste de leur part. Et quand bien même on veuille penser que les arbitres roumains avaient voulu donner une portée raciste à ce propos, on était dans un stade à huis clos, avec des caméras, avec des micros qui enregistraient tout. L'occasion était quand même terriblement belle de faire un coup d'éclat. Enfin, je veux dire, ils l'ont dit sans aucune façon penser à dire quelque chose de raciste. C'est une pénible, terrible, stupide maladresse, selon moi, plus qu'autre chose.
Mais parfois, les symboles, vous en conviendrez, permettent aussi de faire changer les mentalités. Alors peut-être
qu'hier
soir, ça n'était pas le cas, mais si ça peut permettre de changer les mentalités, c'est bénéfique tout de même.
Oui, bien sûr. Mais c'est encore une fois, je ne vous méprenez pas, c'est un combat qui mérite d'être mené. Mais on est dans une époque qui pousse un peu volontiers et de façon un peu unanimiste à voir les choses d'une certaine manière. Je voulais juste apporter un petit peu de nuance.
Sur la ligne Noël Le Graët.
Non. Je parle juste de ce qui s'est passé hier soir.
Bien.
Voilà. 19h27,
on continue d'en parler dans quelques secondes. À tout de suite, le racisme au sein du foot français et international. Alexandre Diallo réagira notamment. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est en direct dans le débat du Club des Idées. On s'intéresse ce soir à ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Le match a repris depuis une quarantaine de minutes et le PSG mène, c'est une bonne nouvelle, 3-0. Alors y a-t-il un racisme dans le football français, dans le football européen, dans le football international? Et on s'interrogera également ce soir sur le rôle des instances professionnelles du football et notamment la déclaration, vous vous en souvenez peut-être, de Noël Le Graët, le patron du football français. Vous vouliez d'abord réagir, Pascal Boniface, vous me disiez pendant les quelques secondes de pause, sur cette image des joueurs qui se sont rassemblés avant le coup d'envoi ce soir, au moment de la reprise du match, au Parc des Princes, et ils se sont unis pour envoyer un message fort contre le racisme.
Oui, on a 22 joueurs qui sont autour du rond central et qui sont à genoux ensemble. Alors, des joueurs qui s'agenouillent, qui mettent un genou à terre avec le poing levé pour protester contre le racisme, on l'a déjà vu, mais c'était un ou deux joueurs. Là, ce sont les deux équipes qui le font ensemble, comme d'ailleurs les deux équipes avaient décidé de quitter ensemble le terrain hier, alors que les joueurs du PSG auraient pu se dire « Tant mieux, les joueurs d'Istanbul partent, on a gagné par forfait et on est qualifié. Oui. » Ils auraient pu avoir ce réflexe-là. Ils n'ont pas eu. Cette photo, c'est un peu comme celle du 200 mètres de Mexico, où vous avez ces deux joueurs, Carlos Smith, et qui ont le poing levé. Je pense que cette photo va faire le tour du monde et qu'il va y avoir un avant et un après. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il y a des propos plus violents que ceux qui ont été tenus, et je vous rejoins là-dessus. Mais il y a toujours dans l'histoire un moment où ce qui était accepté, ça bascule, c'est plus acceptable. Et je ne dis pas que cet arbitre est le plus raciste de tous les arbitres, mais il a tenu des propos qui ont été qualifiés comme tels, qui sont celles, parce qu'il désignait quelqu'un par sa couleur, et qu'il y aura un avant et un après.
Alors, je voudrais qu'on écoute un court extrait, et après vous réagissez, Alexandre Diallo, merci de votre patience, un court extrait des incidents qui se sont passés hier soir au Parc des Princes. Voilà, pourquoi il dit négro? Alors peut-être qu'il y a ambivalence sur le terme de négro, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Jean-François Pérez, mais quand même, c'est un état de fait qui peut amener un basculement. Votre réaction d'abord sur ce qui s'est passé hier, Alexandre Diallo, vous êtes membre du comité scientifique, sport et citoyenneté.
Tout à fait. Ce qui est choquant, ou en tout cas ce qui était marquant par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est que en fait, le scandale vient de l'arbitre. Et normalement, les arbitres n'étaient pas connus. En tout cas, les arbitres sont connus pour être des garants du jeu, de l'intégrité de la rencontre. Et c'est un arbitre qui parle à un autre arbitre et qui désigne un joueur en disant « c'est lui là-bas, c'est le noir ». Alors après, on peut discuter sur le fait est-ce que désigner une personne par sa couleur de peau ou par son ethnie, c'est quelque chose de raciste. Mais je pense que sur ces problèmes-là, il faut à la fois réfléchir sur la personne qui le dit, mais aussi sur la personne qui reçoit ce message-là. Et ce que Dembaba et les autres joueurs, de couleur ou non, ont dit, c'est que finalement, pourquoi vous nous désignez nous comme des Noirs, alors que si c'était un joueur blanc, vous n'auriez pas dit le blanc. Et la deuxième chose, c'est ce que Pascal Boniface a dit, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'y a pas simplement un joueur ou un membre de l'encadrement qui a été choqué, ou alors l'ensemble de l'équipe stambouliote qui a été choqué, mais également les joueurs parisiens qui ont pris fait et corps pour cette lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont arrêté le jeu, mais ils ont aussi provoqué le report du match qui se joue aujourd'hui. Et ce qui est intéressant là-dedans, enfin, à mon sens, c'est, si on prend un peu de recul par rapport à la situation, que le football, finalement, c'est un peu comme Alain Ehrenberg dit, c'est-à-dire c'est une sorte de culte de la performance. Les joueurs, on les juge sur leur performance, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ils marquent des buts, ils ne marquent pas des buts, ils ont fait gagner les équipes nationales, les clubs. Et ce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure, c'est que finalement, les joueurs sont des citoyens et des citoyennes qui ont une responsabilité sociale, qui ont une utilité sociale, et qui finalement ne sont pas simplement...
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un sondage qui vient de paraître, que j'ai retrouvé ce matin, qui montre que pour 55% des Français, les sportifs, donc les footballeurs, doivent avoir un rôle dans la société. Mais là, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les joueurs de foot, ils s'occupaient plutôt de compter leurs millions, de leurs comptes en banque.
Tout à fait.
Pas tous.
Et de pas tous, parce que justement, non, sur la question des salaires, il y a vraiment un miroir déformant, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les joueurs les mieux payés. Il y a des enquêtes annuelles, France Football, Forbes, etc. On parle de Messi qui gagne 100 millions, on parle des scandales financiers. Oui. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, en tout cas sur récemment, c'est-à-dire que les joueurs et les joueuses, j'insiste bien aussi sur les joueuses, ont un rôle social. Que ce soit Megan Rapinoe, quand elle s'exprime sur la lutte homosexuelle, mais aussi sur quand elle a pris effet fait et cause lors de l'élection américaine. Oui, mais je voulais juste terminer là-dessus. Également, on peut voir le footballeur anglais Marcus Rashford qui finalement pallie à un manque du gouvernement anglais sur quelque chose d'assez sensible, puisque c'est l'accès à la nourriture pour les jeunes.
Alors c'est vrai, vous avez raison, pas tous, parce que je suis remonté un peu en arrière. Moi, je suis pas un grand pro du foot, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien être précis. Le premier qui a fait parler de lui et qui a dénoncé des insultes racistes et qui a fait grand bruit, c'est Georges Weah. C'était des insultes racistes.
Jean-Antoine Bell aussi.
Mais Georges Weah, ça avait fait du bruit parce que premier Ballon d'Or non européen en 95, devenu depuis évidemment président de son pays, le Liberia. Il avait mis un coup de tête à un joueur de Porto après des propos racistes. Il avait pris 6 matchs de suspension en disant « Fair enough, j'ai pris mes matchs, c'est normal ». Mais en revanche, il s'était toujours indigné que les insultes, elles, n'aient jamais été punies en retour. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, on se rappelle aussi que Jean-Antoine Bell, qui joue à Marseille, a été transféré à Bordeaux et la réception du match était de lancer des bananes pour l'insulter quand même. Donc il y a effectivement des joueurs. Et puis il n'y a pas seulement d'ailleurs la lutte contre le racisme. Bon, Lilian Thuram a créé une fondation. Il y a des joueurs qui s'engagent. Et puis plus récemment, l'Union nationale des footballeurs professionnels a créé un mouvement qui s'appelle Positive Football pour accompagner l'engagement citoyen et caritatif des footballeurs. Donc il y a la caricature du footballeur qui pense qu'aux bagnoles et qu'aux comptes en banque. Mais il y a aussi des gens qui s'engagent comme citoyens, qui vont dans les hôpitaux, qui font des actions. Et là, mais c'était souvent des actions, disons, caritatives, qui ne créent pas de clivage dans les débats. Là, il y a maintenant un autre phénomène. C'est les gens s'engagent sur des causes qui peuvent être clivantes.
Bah d'abord, il y a un vecteur pour le faire et un support pour le faire. C'est les réseaux sociaux. Ça, c'est relativement nouveau. Et c'est vrai qu'on a vu que Mbappé et notamment Presley Kimpembe hier ont pris position contre le racisme sur Twitter. Et puis il y avait eu les événements aussi Samuel Paty où Mbappé avait pris position. Les événements aussi
aux États-Unis,
passage à tabac du producteur noir Michel Zecler par des policiers. Voilà, on sent qu'il y a une mobilisation et un intérêt pour les sujets de société qui est en train de monter chez les footballeurs.
C'est-à-dire que les footballeurs ne sont plus coupés de la société. Ils ne sont plus uniquement à jouer au ballon dans un stade, à faire des résultats. Ils le font. Et pendant très longtemps, on acceptait, et on demandait même aux artistes, aux chanteurs, aux acteurs de cinéma de s'engager. Et on n'acceptait pas de la part des sportifs qu'ils le fassent, puisque la fiction, c'est qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, alors que c'est sans cesse mélangé. Et là, maintenant, de plus en plus, vous allez voir ces jeunes gens qui ont fait des études, qui s'informent, qui se tiennent au courant et qui vont prendre position.
Et qui veulent avoir un rôle à part entière dans la société. 19h38, vous restez avec nous, on va retourner au Parc des Princes dans quelques secondes. Jean-François Pérez, vous réagirez et on s'intéressera, parce que c'est un point important, je trouve, aux instances dirigeantes du foot. Quel rôle peuvent-elles jouer là-dedans? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, la suite du débat du Club des Idées. On est toujours en direct et on s'intéresse à ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes et ses propos a priori racistes tenus par un arbitre assistant. On continue d'en parler et on sera dans un instant au Parc des Princes en direct où le PSG, je le rappelle, bonne nouvelle, mène 3-0. Alors, quel est le rôle dans ce débat sur le racisme des instances dirigeantes du foot? Souvenez-vous ce qu'avait dit il y a peu de temps Noël Le Graët, le patron du foot français. C'était dans l'émission Face aux auditeurs sur notre antenne.
Les spectateurs, quelquefois, on ne peut pas tout contrôler, mais ça ne peut pas être le football. Le football n'est pas raciste. Les joueurs s'entendent bien, ils sont fiers d'appartenir à un club. Et en général, en amitié, il n'y a aucun écart entre les joueurs.
Voilà, il l'a dit autrement sur une autre radio, il n'y a pas de racisme dans le sport, disait-il. Pourquoi nier l'évidence, Jean-François Pérez, même s'il n'est pas systémique ce racisme?
Le football, si vous prenez ça comme sport, si vous prenez ça aussi comme Noël Le Graët, qui est le patron de la fédération, qui rassemble plus de 2 millions de personnes, et il parlait en l'occurrence pendant cette émission du foot professionnel, n'est pas intrinsèquement raciste. On ne peut pas l'accuser de l'être par nature.
Mais bon, voilà. On peut poser des mots aussi
sur les équipes, si on veut se dire les choses de façon un peu politiquement incorrecte. les équipes du championnat de France de Ligue 1 sont composées au moins pour moitié de joueurs noirs. Excusez-moi, j'ai dit noirs, de joueurs à la peau noire. Bon, ouais. Voilà. Ça ne pose strictement aucun problème. Ouais. Et franchement, on s'en fiche.
Ouais.
Ce qui est important, c'est que les joueurs soient bons.
Mais ils continuent de se faire
métier.
Insulter par les supporters quand même. Moi, je voudrais vous faire écouter.
Non,
par exemple...
franchement, Julien, c'est moins le cas ces dernières années parce que beaucoup de progrès ont été faits.
Je voudrais vous faire écouter une archive, celle de Patrice Evra, sur les lettres racistes reçues à Clairefontaine. C'est pas moi qui le dis, c'est lui.
Il y a une dizaine d'années.
Écoutez-le.
C'est pas une balance, hein, Noël. Mais là, je suis obligé de parler au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit racistes, des lettres. Hey, Didier, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça? Mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs... aient... Mais moi, j'en ai vu certaines.
Alexandre Diallo.
Oui, je voulais juste revenir là-dessus et sur finalement cette une sorte de, à la fois de cécité mémorielle, c'est-à-dire que... ou alors, je sais pas, c'est soit ça, soit une forme de colorblind, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème et finalement le seul critère sur lequel on juge les joueurs, c'est la performance. Donc on peut avoir des équipes composées, ce que vous disiez, championnat 50% de noirs, etc. Et finalement il n'y a pas de problème parce qu'on supporte nos clubs et parce que les joueurs sont bons, sont mauvais. Pour moi ça pose un vrai problème, en fait ça met juste en exergue une chose, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai dit, c'était même Samuel Umtiti dans un documentaire, c'est-à-dire cette espèce de loi du silence, c'est-à-dire que en fait on a des joueurs qui grandissent avec cette exigence de culte de la performance et puis ils arrivent au niveau professionnel et donc ils sont blindés et donc on peut leur dire un petit peu, on peut avoir des propos qui peuvent être qualifiés d'injures raciales, mais finalement à partir du moment où la personne ne veut pas vraiment le dire, ou finalement on dit juste noir, ou on dit l'arabe, ou etc., finalement c'est pas si grave. Pour moi ça pose un vrai problème qui est fondamental, qui est le problème à la fois de la personne qui dit la chose, mais aussi de la personne qui la réceptionne. Et ce que dit Noël Le Graët, c'est à la fois... C'est problématique et c'est symptomatique. C'est-à-dire que c'est problématique parce que oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des problèmes de racisme à tous les étages, c'est-à-dire au niveau amateur, mais aussi au niveau professionnel. Et c'est symptomatique parce que finalement, c'est cette idée de... Bah, c'est juste un petit îlot... et finalement ça ne correspond pas à la situation, le problème étant, je le redis et pour moi c'est central dans cette question-là, c'est la question de la personne qui le dit et pas le fait de dire il est gentil et puis à partir du moment où il ne pense pas être raciste, et ben, il peut dire ce qu'il veut. Et c'est aussi la question de la personne qui réceptionne la parole.
D'ailleurs, peut-être preuve en est, c'est qu'il y a quand même des clips contre le racisme qui sont lancés par la Ligue professionnelle de football.
Les instances luttent contre le racisme. Et pour revenir au propos de Noël Le Graët, il ne faut pas confondre. Quand il dit que le football n'est pas raciste, c'est-à-dire que le football en tant que tel n'est pas raciste. Et il ne nie pas qu'il puisse y avoir du racisme dans le football. C'est une chose différente de dire qu'il y a du racisme dans le football ou que le football en tant que tel est raciste, puisque vous avez des gens qui n'aiment pas le sport et qui disent que c'est le sport qui génère du racisme. Non, il y a du racisme qui se greffe sur le sport.
Est-ce qu'il y a un problème sur les instances européennes, juste pour avancer? L'UEFA, par exemple.
Bah oui, quand on voit la photo, il n'y a pas beaucoup de diversité.
Qui a diligenté. Oui, non, mais les instances, on va en parler dans deux secondes. Ouais. D'abord sur ce qui s'est passé hier, qui a diligenté une enquête. Le carton rouge, d'ailleurs, qui a été mis, a été gelé dans l'attente des conclusions de cette enquête. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des instances européennes qui, a mis beaucoup de temps à réagir hier soir et puis qui a. Tenter d'engager
non, ils ont
les
pas
joueurs
mis beaucoup
pour qu'ils
temps.
Reprennent
Je serais moins sévère que vous sur ça. Là-dessus, quand même, les instances font leur boulot. Ils ont quand même des politiques de sensibilisation contre le racisme, des sanctions qui sont prises, même si pendant très longtemps, on n'a rien fait. Et là, c'est beaucoup plus différent. Il y a vraiment des sanctions qui sont prises. Par contre, c'est vrai qu'il y a un plafond de verre. C'est vrai que quand on regarde la composition des équipes et le banc des entraîneurs et encore plus les sièges, des fauteuils des dirigeants, on voit qu'il y a un problème. Je me rappelle que quand
si je me trompe, mais en France, il y a un entraîneur noir qui
vient d'être viré.
Oui, il vient d'être viré.
C'était Patrick Vieira. Alors, il n'est pas été viré parce qu'il était noir. Non. Il a été viré parce que, comme tous les entraîneurs qui sont virés, qui perdent 5 matchs de suite. Mais je me rappelle que Pape Diouf disait que c'était une anomalie sympathique puisqu'il était le seul président noir de tous les clubs européens de football. Et donc, c'est sûr que quand vous avez un Zidane, un Thuram ou un Desailly, vous le prenez, mais après, c'est plus difficile de devenir entraîneur, de devenir dirigeant. Donc là, on voit qu'il y a quand même un problème de représentativité de la diversité dans les instances.
Hier soir, on a beaucoup reproché à l'UEFA sa lenteur dans une époque qui va très vite, trop sans doute, en permanence. Mais il faut comprendre aussi qu'ils se sont retrouvés face à une situation qui était inédite. c'est que c'est la première fois qu'un arbitre est accusé de propos racistes dans un match aussi important.
Les instances de l'UEFA, il n'y avait pas de règles pour sortir un arbitre du terrain.
Exactement. Il y a un vide juridique. Et donc, ils ont pris en effet une heure ou deux avant de réagir. Ils ont proposé la solution de remplacer le quatrième arbitre par celui qui était en train de s'occuper de la vidéo. Ça a été refusé. Et la soirée s'est prolongée comme ça avec des négociations qui n'ont pas abouti. Et l'UEFA, sur les coups de 23h, 23h30, a publié un premier communiqué. Voilà, ça explique un peu aussi pourquoi ils n'ont pas voulu réagir ou surréagir dans l'instant et sous le coup de l'émotion.
Sur la diversité, Jean-François, vous partagez ce qui a été dit, c'est que la diversité sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on monte dans les échelons de la hiérarchie, que ce soit dans les clubs ou au sein des fédérations, là, c'est plus compliqué.
Ça se constate. Maintenant, moi, je suis un républicain et j'aimerais que la méritocratie soit appliquée dans tous les domaines d'activité. Je constate en effet avec certains déplaisirs qu'au sommet de la pyramide, en effet, il y a peu de diversité. Maintenant, si vous allez sur les terrains le samedi et le dimanche du foot amateur, vous en verrez partout. Oui, et la Coupe de France, par exemple, qui aurait dû démarrer pour les clubs professionnels dans quelques jours, est l'illustration parfaite que ça existe, mais à un niveau inférieur. Maintenant, il faut essayer de faire plus de progrès pour les clubs professionnels.
Alexandre Diallo.
Oui, évidemment, je rejoins les propos qui ont été dits. C'est évident que dans les instances, que ce soit au niveau des clubs, mais aussi au niveau des fédérations, mais de manière plus générale, ce n'est pas simplement le football, hein, c'est les autres sports également. Mais là, ici, on parle de football. Il est évident qu'il y a un manque de représentativité des personnes de couleur.
C'est pareil chez les préfets, c'est pareil chez les députés.
Oui, mais
c'est
oui, pas mais, le sport oui, mais, à part. Je suis d'accord, mais le problème en fait, de s'arc-bouter sur cette notion de méritocratie, c'est que la méritocratie, elle repose également sur...
Elle peut se provoquer parfois, si c'est ce que vous voulez dire.
Elle peut se provoquer et à partir du moment où on constate des manquements, on doit aussi agir en fonction de...
Les mérites de certains ne sont pas reconnus. C'est ça la méritocratie.
Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de Pape Diouf en France.
Alors, 19h48, ça sera le mot de la fin, Jean-François Pérez, et c'est tant mieux. 19h48, je voudrais juste qu'on retourne au Parc des Princes, où sur le terrain, tout a l'air, Julien Fromin, de se passer plutôt bien, et le PSG confirme son avance 3-0.
Hein. Oui, exactement. Ça vient de reprendre la seconde période, et Paris qui vient de se procurer une énorme occasion. Toujours 3-0, doublé de Kylian Mbappé, de Neymar et but de Kylian Mbappé, ce qui permet pour le moment, virtuellement, au Paris Saint-Germain, bien de terminer premier de son groupe et donc en huitième de finale de jouer le match retour à domicile en espérant et bien que au mois de mars prochain il y ait du public dans ce Parc des Princes qui est ce soir désespérément vide.
Merci Julien et merci à mes invités, à tous les trois d'avoir animé avec
merci
moi le débat du Club des Idées. Vous restez avec nous 19h49 dans quelques secondes des archives d'Europe Soir et ce soir direction le Proche-Orient, on vous raconte la première intifada. À tout de suite.